Folklore arménien, conte populaire, les animaux, le chat. La foudre vise les chats. Ils le savent, c'est pourquoi ils miaulent pendant l'orage. Le chien s'attache à l'homme, le chat à la maison. Si après sa mort, leur maître est condamné aux flammes de l'enfer, le chien y porte de l'eau pour éteindre le feu. Le chat y porte du bois pour le rallumer. La fourmi. Si les fourmis transportent des provisions d'une maison ou d'une boutique dans un autre endroit, la chose est de mauvais augure pour la maison ou la boutique. Mais si elles font le contraire, la maison ou la boutique est destinée à avoir des jours de prospérité. Si tu écrases même une fourmi, tu n'auras pas de rémission pour ce péché. Quand même tu bâtirais un 7 ponts. 3. Le smari. Les apôtres Paul et Pierre avaient passé en mer toute la nuit sans avoir pu pêcher un seul poisson. Le Christ jette le filet et retire une immense quantité de samris, picarelle. Il en saisit un avec ses deux doigts, le bénit et le rejette dans l'eau. Les smaris portent depuis lors deux taches à la place où Jésus a touché leurs ancêtres. 4. La punaise. La nuit du vendredi saint, dès que tout le monde dort dans la maison, la maîtresse éteint la lumière dans sa chambre, se déshabille, prend de l'eau dans le creux de sa main et en jette aux quatre coins, en répétant « Que cette eau se sèche ici et qu'ici se sèche aussi la punaise ». C'est là le moyen de détruire la punaise. 5. Les rats. Au moment où les invités d'une noce allaient se mettre à table, le cuisinier découvre un rat dans la marmite qui contenait le père des pilafs. C'est du pilau sucré et safrané formant le mets spécial pour les noces orientales. S'il avait divulgué la chose, il aurait troublé la fête. Il juge donc prudent d'envelopper le rat dans son tablier et de le cacher dans sa poche. Et après le banquet, il déploie le tablier pour jeter le rat. Mais il trouve celui-ci transformé en or. Dieu l'avait récompensé de sa bonne action. 6. L'ours. Un voyageur attardé dans une forêt cherche la nuit un refuge sur un arbre. Un ours y grimpe également, sans pourtant s'apercevoir du voyageur. La bête casse entre ses pattes une noix et tend le fruit vers un rayon de la lune pour voir s'il est bon. Et comme sa patte avait pris la direction du voyageur, celui-ci s'imagina que le terrible animal voulait lui offrir la noix. Et il s'écria avec émotion, « Oh, j'en veux pas, mange-le toi-même !» Ce cri soudain effraie l'ours, à tel point qu'il perd l'équilibre et se tue dans sa chute. L'ours a de la sympathie pour la race humaine. S'il rencontre un homme, il ne lui fait aucun mal. Il n'attaque que lorsqu'il est attaqué. S'il rencontre une femme, il l'emmène à sa tanière et l'épouse. Et, afin qu'elle ne puisse échapper, lui lèche la plante des pieds et avait aussi longtemps pour en enlever la peau. 7. Le ver. Les archanges Gabriel et Michel, qui commandent chacun une armée d'anges, sont chargés d'ôter l'âme à toute personne dont Dieu a décidé la mort. Un jour, le Seigneur ordonne à l'un d'eux d'aller ôter l'âme à une jeune veuve. L'archange entre dans la chaumière de cette femme et y trouve 3 jeunes enfants, n'ayant d'autre soutien que leur mère, et un bébé que, penché sur son berceau, elle nourrissait de son lait. Mais l'archange n'eut pas le courage de faire mourir une telle personne, et alla dire à Dieu qu'il avait eu pitié d'elle. Le Tout-Puissant l'écoute. Il est irrité de sa désobéissance. Il l'emmène au milieu de l'océan, cette immense profondeur d'eau, et lui fait voir un roc qui, sur son ordre, se fend en deux et sort de son sein un ver, tenant à la bouche une feuille verte. « Moi, dit-il à l'archange, qui nourris ce ver, serais-je incapable de nourrir les enfants de cette femme-là ?» Et lui donne un soufflet qui assourdit à l'instant ses deux oreilles. L'autre archange reçut également la même punition pour une faute analogue. Ils obéissent depuis à tous les ordres du Seigneur et n'écoutent pas la sollicitation des hommes, ne pouvant les entendre. 8. L'oiseau. L'Arménien a quoi faire œuvre pie en achetant des oiseaux chez l'oiseleur pour les remettre en liberté. Il tient l'oiseau dans sa main droite, lui fait décrire 3 cercles autour de sa tête et le relâche en lui disant « Sois libre et emporte mes maux et mes soucis. » Il est de bon augure de garder dans la maison des poules, des chiens et des chats. Mais on s'attire des malheureux en les y gardant vivants, des poissons, des colombes et d'autres oiseaux. Un homme avait la manie d'attraper des oiseaux et de leur couper la langue et de les remettre en liberté. Après son mariage, il n'eut que des enfants muets. Un oiseau d'une beauté merveilleuse vient percher un jour sur un arbre en face d'une église. Le Variabel s'amourage de lui à tel point qu'il abandonne tout pour le suivre d'arbre en arbre et de pays en pays. Cette pérégrination dure 300 ans, au bout desquels l'oiseau plonge dans la mer et le moine retourne avec désespoir à son église sans se douter qu'il s'était écoulé 3 siècles. Il voit avec étonnement que l'édifice, les prêtres et les bedeaux n'étaient plus les mêmes, et que tout avait changé complètement. Pour la première fois, depuis son départ, il sent qu'il a faim. Il remet au boulanger une pièce de monnaie pour acheter du pain, et la date de la monnaie révèle à tout le monde que sa pérégrination a duré en fait 300 ans. Les nobles se réunissaient jadis dans une plaine et faisaient voler l'oiseau royal. On proclamait roi l'individu sur qui se posait cet oiseau. Un jour, un cavalier passait par cette plaine, suivi d'un misérable palefrenier qui tenait la queue du cheval. Il s'arrêta pour voir la cérémonie. « Oh !» se dit le palefrenier, « si l'oiseau vient se poser sur moi, j'écraserai toute la population. » L'oiseau royal vint en effet se poser sur lui. Les nobles, qui le croyaient indigne de la couronne, répètent l'épreuve. Mais l'oiseau va le retrouver encore. Comme la chose se passa de même à la 3e épreuve, on plaça la couronne sur la tête du palefrenier. Il opprima durement le peuple dont Dieu avait voulu punir ainsi les péchés. Le peuple témoigne enfin un repentir sincère et supplie le Seigneur d'adoucir le cœur du palefrenier ou bien de le faire mourir. Cette dernière prière est exaucée. 9. Le chien. Le chien fait le mal sans en avoir conscience. Il a le malheur de ne pas pouvoir parler. C'est donc un animal innocent, et pour les personnes qui lui donnent du pain et de l'eau, il intercède auprès de l'ange chargé de les faire mourir. Quand il hurle dans une rue où il y a quelques malades, On croit qu'il voit cet ange et qu'il pousse des lamentations. Pour le faire taire, on retourne un soulier sur le plancher ou bien on y enfonce un couteau, car on a peur de l'approche de l'ange exterminateur, invisible à l'homme. Si un homme est maudit par un ecclésiastique ou par un laïc à qui il aurait fait quelque injustice, il rend l'âme avec beaucoup de souffrance. Il hurle après sa mort. Son cadavre ne se décompose pas. Il se transforme en vampire. Les Arméniens croient que les Grecs rouvrent pour cela, un an après l'enterrement, la tombe d'une personne frappée d'excommunication. Et s'ils retrouvent que le cadavre ne s'est pas fendu, ils le lavent dans le vin, le bénissent en chantant des hymnes et l'enterrent de nouveau. Une Arménienne, maudite par un prêtre, ne pouvait rendre l'âme pendant plusieurs semaines, bien que son corps exhalât déjà une odeur fétide. Deux prêtres se rendent chez elle, restent debout en se faisant face, et l'un d'eux donne l'absolution à l'autre, qui la sollicite au nom de l'agonisante, incapable d'articuler un son. Ce n'est qu'ainsi qu'elle parvint à rendre l'âme. Le Gloria in excelsis est le principal remède contre ce mal. Si on ne le récite pas à l'enterrement, le tertre de la tombe ne s'abaisse pas. Le cadavre reste intact, perce le sol et hurle la nuit à travers ce trou. Les Arméniens croient que les Turcs ont dû traduire cette prière pour leurs enterrements et que le nombre de leurs vampires a diminué depuis. Pourtant, cette prière ne saurait sauver le coupable si la victime de ces injustices a prié Dieu de le rendre incapable de dire « mea culpa » et de le condamner à hurler. Tout voyageur qui traverse la nuit un cimetière entend ces aboiements. Pour que le vampire puisse trouver du repos, il est nécessaire que le clergé lise l'évangile sur sa tombe. Un homme cherchait une nuit sauvage dans un cimetière turc. Un caniche le suit en sautillant et entre avec lui dans sa maison. L'individu le laisse dans la cour et monte à sa chambre. Il redescend sous peu à la cour et voit que le caniche avait disparu et qu'il avait été remplacé par le cadavre d'un Turc allongé dans son linceul. Il se tait, frappé d'horreur, et va se coucher. À l'aube, il redescend à la cour et il retrouve le caniche qui se hâte de mettre à la porte. 10. Le serpent. Si la conversation tombe sur le serpent, on en conclut que les ennemis des personnes présentes sont en train de médire d'elles. Pour chasser les serpents, on jette au feu la coque de l'œuf dans la conviction qu'ils ne peuvent pas en souffrir l'odeur. Le serpent adore le lait. Une famille parvint à s'enrichir énormément en plaçant chaque nuit devant un coffre un pot rempli de lait avec du pain blanc. Le serpent buvait le lait et mangeait le pain et jetait dans le coffre chaque nuit une pièce d'or. Le serpent qui réside dans une maison ne fait pas de mal à la famille qui l'habite. Il lui apporte au contraire la fortune. Chaque fois qu'il apparaît, il répand un parfum d'aloès. On doit lui dire alors, « Sois le bienvenu, va en paix. Que de moi il n'arrive pas de mal à toi, ni de toi à moi. » Un mendiant errait dans les rues de Sambul en répétant, « J'ai beaucoup d'esprit, mais j'ai pas assez d'argent. » Un banquier arménien eut la curiosité de lui demander de quelle somme il avait besoin pour réaliser ses projets. Le mendiant déclare avoir besoin de 3 000 piastres, et le banquier lui prête la somme. Le mendiant s'en sert pour acheter une foule de nattes grossières qu'il entasse dans un vaisseau. Tout le monde se moque de lui, mais il s'embarque hardiment, traverse l'océan, aborde une plage inconnue et y fait transporter ses chattes au moyen de barques. Il en forme un bûcher et y met le feu. Les serpents aveugles descendent de leur montagne, traversent les cendres des nattes et y perdent les précieux diamants qu'ils tenaient à la bouche. Le mendiant fait avec ses cendres des briques et cache dans chacune d'elles 2 diamants. Il les fait transporter dans le vaisseau en s'exposant à la risée des matelots et regagne enfin Constantinople. Il se rend au bureau du banquier. Comme celui-ci n'y était pas, il remit à son secrétaire une brique et le pria de l'offrir à son patron. Ce dernier arrive enfin, et ses employés lui présentent en riant ce qu'ils appelaient le cadeau du feu. Le banquier casse la brique et s'étonne de la beauté extraordinaire des diamants. Le mendiant devint le plus opulent personnage du pays, et le roi lui accorda la main de sa fille. Le capitaine Mourad avait visité bien des mers. Il racontait un jour, dans un café d'Istanbul, qu'il avait vu sur une plage de l'océan un serpent qui avalait un éléphant. Un jeune auditeur, qui était un ouvrier tapissier, se moqua de lui en s'éclatant et en criant « Oh, le beau mensonge que celui-là, un serpent qui avale un éléphant !» Le capitaine se tait, mais il se met en tête de se venger du persifleur. Il invite un jour à tapisser la cabine de son navire. Dès que le jeune ouvrier eut pénétré dans la cabine pour se livrer à son travail, les matelots hissèrent les voiles sur un ordre du capitaine et le vaisseau s'éloigna de la côte par un vent propice. Le tapissier s'aperçoit de l'embûche et crie au secours, mais Mourad lui répond d'une voix tonnante « Viens voir les serpents qui avalent des éléphants !» Le bâtiment s'arrête enfin au bord de l'océan et le bar qui transporte l'ouvrier qui est laissé seul sur le sable. Le capitaine reste dans le bateau, observé à l'aide de son télescope tout ce qui se passait sur la plage. Le jeune homme, transi de peur, monte sur un arbre. C'était un aloès dont le bois odoriférant qu'on brûle pour parfumer les appartements est si précieux que chaque dirham ou drachme en vaut jusqu'à 60 paras. Il aperçoit le soir des serpents, des lions, des tigres, des léopards et d'autres fauves qui descendaient des montagnes pour prendre le frais au bord de l'eau. Il voit un énorme boa qui avalait un éléphant. Il voit aussi des serpents aveugles qui tenaient à la bouche de précieux diamants gros comme noix dont les reflets leur servaient de vue et de guide. Les bêtes se retirent enfin dans leur montagne et le tapissier redescend sur le sable pour empêcher ces pierres brillantes et les mettre dans sa poche. Il coupa l'arbre où il avait grimpé 2 grosses branches, s'en sert comme d'un radeau, flotte plusieurs mois sur l'océan sans trop s'éloigner du rivage et atteint enfin une ville du littoral Dans l'intervalle, le vaisseau de Mourad avait regagné Constantinople. Il entre dans la ville, plié sous le poids de ses deux branches. Il est accosté par un juif qui avait pour métier de faire passer du sable par un filet très fin et d'en extraire le diamant. Le juif lui propose de lui vendre son bois. Le tapissier, qui le prenait pour du bois ordinaire, lui demande s'il voulait se moquer de lui. « Mais comment donc ?» reprend le juif. « Voici 100 piastres pour toi. » « Oh, je n'accepte pas. Mais prends-en 500. »« Non. Accepteras-tu 1000 ?»« Jamais. » Mais en voilà 5 000. Compte-les. Le juif paye. Il lui demande s'il n'avait pas d'autre chose à vendre. Le jeune ouvrier met la main dans sa poche et retire une poignée de pierres brillantes. Il ne savait pas qu'elles étaient des diamants. Le juif déclare qu'il est prêt à les acheter. Et le tapissier lui demande s'il voulait se moquer de lui. « Mais comment donc ?» reprend l'autre. « Je t'offre 500 piastres. »« Mais je n'en veux pas. »« Mais je t'offre 1000. »« Je n'accepte pas. »« 10 000. »« Non. »« 20 000. »« Jamais. » Il accepte enfin 15 000 piastres, s'embarque pour Istanbul, se rend au café en question et est reçu avec joie par tous les habitués. Le capitaine y arrive à son heure habituelle et l'ouvrier s'empresse de lui faire des excuses. « As-tu pu, lui demande Mourad, gagner au moins quelque argent ?»« Oh oui, capitaine. Un juif m'a acheté pour 50 000 piastres les branches de l'arbre où j'avais grimpé et une partie de mes pierres brillantes. »« Imbécile !» lui crie l'autre. « Ton bois était de l'aloès, et tes pierres des diamants, ils valaient des millions !» Le tapissier, enrichi, lui offre quelques diamants et mène une vie de roi.